Si vous sortez un jour de beau temps, dans la soirée, vous allez pouvoir voir les étoiles dans le ciel. Et si vous regardez bien, vous allez voir à travers le ciel cette grande ligne plus claire qu'on appelle la Voie lactée. La Voie lactée, en fait, c'est un nombre incalculable d'étoiles qui forment une espèce de disque immense. Et ce disque, disent les scientifiques, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Alors on fait les comptes un petit peu. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année, sachant que la lumière voyage à 300 000 km à la seconde. Alors prenez un papier assez grand, parce qu'il va y avoir beaucoup de zéros, et calculez 100 000 années-lumière, combien ça fait de kilomètres. Voilà la taille de la Voie lactée. C'est trop vaste pour que je puisse comprendre à quoi ça correspond. Alors on va prendre des mesures un petit peu plus humaines. On va dire, pour essayer de comprendre, que la Voie lactée, c'est un immense disque de milliards d'étoiles qui fait 130 km de diamètre. 130 km, on sait ce que ça veut dire. Eh bien, notre système solaire, pas notre Terre, entendez bien, notre système solaire, en comparaison de cette Voie lactée de 130 km de diamètre, ça rentre dans 2 mm. Là se trouve notre système solaire. Et puis, si l'on veut trouver notre Terre, alors il faut aller dans le plus petit encore. Et sur la Terre, si nous voulons trouver un être humain, il faut aller plus petit encore. Quand je pense à ces mesures, quand je pense à la création, j'ai envie de m'exprimer comme le faisait le psalmiste dans le psaume 8. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Et c'est vrai, quand nous y pensons, nous sommes minuscules, nous sommes tellement petits dans cet univers. Dieu a-t-il un intérêt pour ces minuscules créatures qui ont pris le mauvais chemin? C'est la raison pour laquelle, dans cette adoration de Dieu en tant que créateur, nous ne pouvons pas contourner l'enseignement biblique sur le sabbat. D'ailleurs, ce n'est pas difficile. Vous ne trouverez jamais un évolutionniste qui observe le sabbat. C'est impossible. En réalité, l'évolution a été conçue pour que Dieu sorte de l'univers de l'homme, que l'homme n'ait pas besoin de rendre compte à qui que ce soit, si ce n'est à lui-même. D'ailleurs, cette année, on a parlé de Darwin, on a célébré Darwin, que ce soit le 200e anniversaire de sa naissance ou le 150e anniversaire de la publication de son livre « L'origine des espèces ». Un livre qui, dit-on, a révolutionné notre manière de concevoir l'origine de l'homme. C'est vrai, révolutionné, mais dans un sens qui n'est pas exactement le sens de la parole de Dieu. Et évidemment, nous nous trouvons là en face d'incohérences extraordinaires. Incohérences d'ailleurs durant sa vie à Darwin et incohérences aussi dans sa mort. Parce que Darwin, avec sa théorie de l'évolution, a véritablement posé un fondement supplémentaire et extrêmement important de l'athéisme. Et où a-t-on enterré Darwin ? Dans l'abbaye de Westminster, avec les grands personnages de la chrétienté, à quelques pas seulement d'Isaac Newton, qui lui avait étudié les prophéties et qui avait vu dans les prophéties ce qui concerne la fin des temps, le retour du Christ, les derniers signes. Il les avait vus dans son temps. C'est à côté de cet homme-là, de ce géant de l'étude des prophéties, que l'on va placer Darwin, celui qui va rejeter Dieu et qui va enseigner au monde, finalement, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et qu'ils descendent du singe, qu'ils viennent d'une petite cellule qui s'est développée toute seule, par hasard. Incohérence. Il n'est pas étonnant que le monde chrétien d'aujourd'hui, d'ailleurs, ne soit pas intéressé au sabbat. Parce que même le monde chrétien d'aujourd'hui a accepté en grande partie les théories de Darwin. C'est enseigné dans le monde comme étant la vérité sur l'origine de l'humanité. Et le monde chrétien ne fait pas exception. Il n'est donc pas étonnant qu'ayant rejeté Dieu comme créateur, on rejette aussi Dieu, Sauveur, et le Dieu du sabbat. D'ailleurs, le sabbat souligne ces deux dimensions d'une façon très forte. Quand vous prenez le livre de l'Exode au chapitre 20, il nous est donné dans ce passage la raison pour laquelle nous sommes invités à observer le sabbat. Exode chapitre 20, au verset 11, la raison nous est donnée. Exode chapitre 20, verset 11, il est écrit ceci. « Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. » La raison nous est ici donnée. Pourquoi Dieu a-t-il donné le sabbat à son peuple? Parce que Dieu est le Créateur et qu'ils sont ses créatures. Maintenant, lorsque vous lisez dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, ce texte où de nouveau la loi de Dieu nous est présentée, curieusement, en rapport avec le sabbat, une autre raison est apportée. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, nous lirons le verset 15. Il est écrit ceci. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Il est curieux de voir que dans un texte, la création nous est donnée comme raison d'être du sabbat. Et dans un autre texte, un peu plus loin, dans le livre du Deutéronome, la raison pour l'observation du sabbat, c'est la délivrance de l'Égypte. La délivrance de l'Égypte, image de la délivrance du péché, de l'esclavage, du péché. Il y a donc là les deux piliers sur lesquels repose l'observation du sabbat. Le sabbat, anniversaire de la création, célébration du Dieu créateur. Et puis le sabbat, célébration du Dieu sauveur, celui qui nous a délivrés de l'esclavage, du péché. Ces deux raisons, on les trouve tout au long de l'histoire et de l'histoire du sabbat, de l'histoire de sa pratique. Et alors que nous arrivons vers la fin des temps, ces deux dimensions de l'observation du sabbat ressortent nécessairement avec beaucoup de force. On le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, dans un passage que vous connaissez bien et qui est extrêmement clair sur cette situation du sabbat finalement. Apocalypse chapitre 14, verset 7. En parlant de cet ange qui vole par le milieu du ciel, il est dit « Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Comment peut-on adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? La Bible elle-même nous indique que c'est par l'observation du sabbat. C'est Dieu lui-même qui en a donné les limites et les contours. Mais remarquez, ce texte nous dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Mais qu'est-ce que le jugement de Dieu? Pour le croyant, c'est le moment où il reçoit cette réhabilitation en tant qu'enfant de Dieu. Ce jugement, c'est la bonne nouvelle pour le croyant. C'est la bonne nouvelle pour celui qui est en Jésus-Christ. Ce passage reprend ses dimensions du sabbat, reposant sur le salut en Jésus-Christ et sur la reconnaissance d'un Dieu créateur. Ainsi, cette notion d'adoration revêt à la fin des temps une dimension d'une extrême importance. Relisez par exemple le livre de l'Apocalypse. Il parle d'adoration du début à la fin. À la fin des temps, nous sommes invités à être des adorateurs. Des adorateurs en esprit, en vérité, des adorateurs de l'agneau, des adorateurs du Créateur, des gens qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus, et qui par conséquent donnent au sabbat toute sa dimension parce que c'est le signe même de cette acceptation du Dieu Créateur et du Dieu Sauveur. Ainsi, adorer devient extrêmement important. Et je ne parle pas ici de faire une courbette devant qui que ce soit. Je parle de cette adhésion intérieure à cette relation entre Dieu et l'homme, une relation entre le Créateur et la créature. Regardez avec moi dans le psaume 92 comment le psalmiste s'exprime dans ce psaume qui est reconnu comme étant le psaume pour le jour du sabbat. Psaume 92, nous lirons à partir du verset 5. Psaume 92, verset 5, il est écrit ceci. « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. » C'est effectivement le tableau que nous avons aujourd'hui, où d'un côté nous sommes admiratifs quand nous réfléchissons à la dimension de la création de Dieu, et d'autre côté nous sommes obligés de reconnaître que l'homme stupide n'y connaît rien et que les insensés de notre temps n'y prennent point garde. Ainsi, dans cet état d'esprit d'adoration, où l'on n'est pas en train de demander quelque chose à Dieu, mais on est au contraire en train de lui exprimer notre admiration, notre reconnaissance pour sa création, dans cet esprit-là, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi le psaume 104. Le psaume 104 est un chant d'adoration au Dieu créateur. Mais curieusement, le psalmiste a composé ce chant d'adoration sur le modèle de Genèse chapitre 1 et 2, c'est-à-dire en suivant le modèle de la création. Prenez avec moi ce psaume 104 et j'aimerais le regarder avec vous à la lumière de ce que nous connaissons dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Il y a d'abord une introduction à ce psaume. Il est dit dès le verset 1er, « Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, que tu es infiniment grand. » Et ces paroles d'introduction sont en réalité les paroles de conclusion aussi, nous les avons au verset 35, où il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. » L'introduction et la conclusion nous rapportent ce même thème de louange, d'adoration, parce que c'est de cela qu'il est question. Le psalmiste ici ne demande pas à Dieu de le protéger, ne demande pas à Dieu de le garder ou d'éliminer ses ennemis. Il se présente à lui avec cet état d'esprit de la créature devant son Créateur. Le texte qui suit se retrouve divisé en sept parties, comme les sept jours de la création. Regardez par exemple à partir du verset 1er. Il est dit au verset 1er, « Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Et vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, c'est à la lumière justement qu'est consacrée la première journée. « Que la lumière soit, dit le texte, et la lumière fut. » Le texte ici de notre psaume 104 commence avec le même thème. Il parle à Dieu, il dit « Il s'enveloppe de lumière » comme d'un manteau. Le psaume 104 commence comme commence aussi le texte de la Genèse. Le deuxième jour de la création, vous vous en souvenez, parle de cette étendue du ciel, de cette atmosphère qui est créée autour du monde et qui rend la vie possible. Le texte nous dit qu'il y a une étendue et cette étendue est appelée le ciel. Dans notre psaume 104, il nous est dit ceci à partir du verset 2. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux faites de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Ce passage reprend le thème du ciel, de la nuée, que nous retrouvons effectivement dans le deuxième jour de la création. Vous vous souvenez maintenant, le troisième jour, Dieu avait dit que les eaux se rassemblent en un même lieu, de sorte qu'il y ait la mer d'un côté et le sec de l'autre. On va appeler, dit le texte, les eaux mer, le sec terre, et sur cette terre, il va y avoir de la végétation qui va pousser. C'est l'objet de la création de Dieu le troisième jour. Regardez maintenant dans le psaume 104, les versets qui suivent, au verset 5. Il est écrit « Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Il l'a couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtent sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Vous retrouvez là exactement le thème de la création de ce troisième jour. Dans cette troisième partie du psaume, qui s'étend encore plusieurs versets plus loin, regardez par exemple au verset 14, il est dit « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » On y retrouve encore le thème de cette végétation qui a été créée le troisième jour, justement, sur la terre ferme. Dieu avait rempli le monde de cette végétation luxuriante, des arbres et des plantes de toutes sortes. Et dans son psaume, dans cette troisième partie, correspondant à la création du troisième jour, le psalmiste reprend le même thème. Il le reprend, bien entendu, comme nous voyons nous-mêmes la création aujourd'hui, c'est-à-dire nous la voyons complète, non pas un morceau après l'autre, mais dans notre esprit, nous essayons d'identifier les différents moments et les différents objets que Dieu a créés au fur et à mesure de la première semaine de l'existence de notre monde. Cette troisième partie va jusqu'au verset 18 et nous arrivons au quatrième jour. Le quatrième jour, dans la Genèse, vous vous en souvenez, avait été consacré à la création des luminaires. Un grand luminaire pour le jour, un plus petit pour la nuit et un nombre incalculable d'étoiles pour illuminer la nuit. Les luminaires ont été créés, nous dit le texte, pour mesurer, pour marquer les temps et les époques. Les astres, dans leur mouvement, composent cette immense horloge que Dieu a créée. Maintenant, dans le psaume 104, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, il nous est dit ceci. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire. Ils se couchent dans leur tanière, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Le même thème est ici repris, des astres, qui donnent la mesure à notre temps, qui marquent les temps et les moments. Dans notre vie, bien entendu, le rythme de nos journées, de notre travail, le rythme aussi pour la vie des animaux, qui aussi, vous le savez, sont dirigés par un rythme très précis, souvent plus équilibré que le nôtre, pour marquer les temps et les époques et les signes des temps. Le cinquième jour, dans le livre de la Genèse, vous vous en souvenez, était consacré à la création des oiseaux et des poissons. C'est le jour où Dieu dit que les eaux produisent en abondance des créatures, que les oiseaux volent par le ciel. Dans le psaume 104, de la même manière, à partir du verset 24, jusqu'au verset 26, nous les retrouvons à nouveau. Verset 24 dit ceci, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et le Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. » Les voilà, ces animaux, la mer. Le thème est repris du texte de la création, où l'on retrouve l'ordre avec lequel Dieu a rempli la demeure de l'être humain. Le sixième jour voit apparaître les animaux terrestres et puis bien entendu la création de l'homme et de la femme. Dans notre psaume, au verset 27, il est écrit ceci. « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. » Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres tes mains, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. apparaît à nouveau ce thème des animaux et des expressions qui sont employées ici et que nous retrouvons dans Genèse d'une façon précise avec la création de l'homme en ce qui concerne le souffle de l'esprit qu'il donne et la poussière qui a servi pour créer le corps de l'être humain. Ce même thème de la création ici est repris dans cette sixième partie du psaume pour donner écho à la création de Dieu. Et il est compréhensible que dans un chant de louange à un Dieu créateur, on reprenne le thème de la création tel qu'il apparaît dans les premières pages des Écritures. Bien sûr, la semaine de la création ne s'arrête pas au sixième jour. Le septième jour se trouve aussi dans ce psaume 104, à partir du verset 31. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Remarquez, le langage qui est employé dans cette partie est particulièrement intéressant. Il est question ici, au verset 31, de la gloire de l'Éternel. Il est approprié, en effet, d'associer la gloire de l'Éternel avec le septième jour, le sabbat. Vous vous souvenez, dans le texte de la Genèse, il nous était dit que le Seigneur avait regardé sa création. Il avait regardé la terre et il avait trouvé que tout cela était très bon. Sa gloire s'est manifestée par la sagesse de sa création. Mais il est dit ici dans notre texte du psaume 104, « Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles sont fumantes. » Ce texte fait clairement allusion à un passage que nous connaissons et qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Exode, chapitre 19. Où le peuple hébreu a gardé dans sa mémoire cette rencontre avec Dieu. Exode, chapitre 19, au verset 17, il est écrit ceci. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Si vous lisez quelques versets suivants, vous découvrez que nous arrivons au chapitre 20 de l'Exode où sont données précisément les 10 paroles, les 10 commandements, cette loi de Dieu. C'est le moment où Dieu va justement présenter sa loi, le texte en réalité de l'alliance qu'il veut faire avec le peuple de Dieu. Dans le jour du sabbat, une allusion est faite à ce moment où Dieu s'approche de son peuple, lui donne sa loi et fait alliance avec lui. C'est la raison pour laquelle dans Exode 20, le texte parlant du sabbat commence en disant « Souviens-toi du jour du repos ». Ce souvenir est en rapport direct avec l'alliance. Lorsqu'on se souvient de l'alliance faite avec Dieu, on est obéissant. Lorsqu'on oublie l'alliance, c'est parce que on a oublié Dieu, on n'a pas gardé l'alliance, on a désobéi à sa loi. Ainsi, dans ce psaume 104, l'auteur rappelle la gloire de Dieu. Elle se manifeste à son peuple par sa loi, par l'alliance. Elle se manifeste par sa création. Et vous connaissez le psaume 19, le verset 2, exprime le fait que la gloire de Dieu est explicite dans sa création. Psaume 19, verset 2, il est écrit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Comment la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? Par sa création. Et c'était justement le thème de ce psaume. Le sabbat, le septième jour, qui est en réalité le moment où la gloire de Dieu apparaît dans toute sa force. Parce que c'est le moment où il donne à son peuple le repos, le salut. Ainsi, ce psaume se termine par par l'expression de cette louange, je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu, parce que finalement sa création, de A à Z, du premier jour au septième, ne contient que des choses qui sont très bonnes. Et il avait créé l'homme très bon. Maintenant, le psalmiste reconnaît que tout au long de l'histoire, le péché est intervenu et que cette parfaite création de Dieu a été oblitérée par le péché. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Il dit au verset 35 « Que les méchants disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus, mon âme bénit l'Éternel. » Le psalmiste reconnaît qu'il y a un moment où Dieu va intervenir et enlever de sa création le mal qui s'y trouve. Effectivement, le sabbat est un indicateur nous disant que Dieu va intervenir pour donner son salut. Mais il donnera son salut à ceux qui veulent rentrer dans le repos de Dieu. Ceux qui ne veulent pas entrer dans le repos de Dieu sont ceux qui deviennent les représentants du mal, de la mauvaise racine de péché qui est dans le monde et que Dieu va enlever un jour. Pour que sa création retrouve son état premier, retrouve cette perfection d'origine, il faudra enlever le mal entièrement. On découvre par conséquent à la fin de ce psaume une perspective d'avenir, non seulement la perspective d'un Dieu créateur, mais la perspective d'un Dieu recréateur, celui qui va rétablir toutes choses. Et aujourd'hui, nous admirons Dieu, nous adorons Dieu en regardant la création autour de nous, mais cette création qui est autour de nous est malheureusement terriblement abîmée par le péché. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est véritablement la création de Dieu, parce que cette création que nous voyons n'est pas le reflet du plan initial que Dieu avait mis en place dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et 2. Notre adoration est donc bien petite. Notre adoration s'appuie finalement sur un témoignage bien faible de la grandeur et de l'amour de Dieu lorsque l'on voit la création imparfaite autour de nous. Cependant, le plan du salut révélé en Jésus-Christ comble cette lacune de la création. Le sabbat lui-même, qui est le signe du salut en Jésus-Christ, tourne nos yeux non seulement vers le Créateur, mais vers le recréateur, vers celui qui, en Jésus, sauve et recrée et nous donne la promesse de la recréation. L'apôtre Pierre, qui parle de cette espérance qui est chère à son cœur, et il exprime dans la deuxième épître qu'il écrit au chapitre 3, où il dit au verset 13, nous lirons dès le verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pour que cette nouvelle terre et que ces nouveaux cieux puissent exister, il faudra que Dieu détruise le mal jusque dans ses racines. Et nous avons l'assurance qu'il le fera. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de la puissance du Dieu créateur en regardant sa création, mais nous pouvons aussi nous réjouir de ce que Dieu veut recréer en nous l'image du Créateur. La recréation du monde, c'est une chose. La recréation de l'image de Dieu en chacun d'entre nous, c'est une autre chose. Et Dieu veut atteindre cet objectif-là aussi. Ainsi, si nous croyons que Dieu est véritablement le Créateur, si nous croyons que Dieu est le Créateur du sabbat, si nous croyons qu'il est Créateur de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, nous devons croire aussi qu'il a la capacité de recréer en nous son image. Lors du sixième jour, Dieu avait dit qu'il allait créer l'homme et la femme à son image. Mais s'il veut recréer de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, il faudra que les hommes soient à nouveau recréés à son image. Nous pouvons donc aujourd'hui, dans le jour du sabbat, non seulement nous réjouir de la puissance créatrice de Dieu dans l'univers, mais nous réjouir de la puissance créatrice de Dieu dans notre univers, dans notre existence, dans notre vie. Sans quoi le plan de Dieu ne serait pas complet. Cette recréation ne serait pas parfaite. Il manquerait la recréation de ceux qui étaient en réalité l'objectif de l'aménagement du monde dans lequel nous vivons. Mais nous avons cette invitation qui est présentée dans la parole de Dieu. Regardez dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5. Première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5. Cette invitation nous est adressée dans la perspective du retour de Jésus et de la recréation de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce texte contient la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'en réalité, cette recréation en nous ne peut être accomplie que par l'intervention miraculeuse du Seigneur dans notre vie pour recréer en nous son image avec une puissance égale à celle qu'il emploie dans l'univers pour le recréer selon le plan d'origine. Le livre du prophète Ézéchiel nous fait encore cette promesse-là. Elle est déjà dans l'Ancien Testament. Regardez dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20, au verset 12, il est écrit ceci. « Je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Le sabbat, jour d'adoration, jour de reconnaissance du Dieu créateur et du Dieu sauveur, devient le signe que nous avons reconnu que seul Dieu est capable d'accomplir en nous cette sanctification, cette transformation qui est nécessaire. Nous en avons l'assurance quelques chapitres plus loin dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36. Cette promesse nous est donnée que l'œuvre que le Seigneur a commencée, il saura l'achever. Et je vous propose de lire ces trois versets qui sont dans Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 26. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Ce texte, c'est une promesse de recréation. Ce n'est pas simplement la promesse de nous donner la vie éternelle, de nous donner de vivre dans la nouvelle terre. C'est aussi la promesse de recréer en nous l'image de Dieu. Que le sabbat soit pour nous cette assurance que ce que Dieu a commencé, il saura l'achever en chacun d'entre nous. Amen.